Bonsoir à tous. Donc, je voulais juste dire quelques mots avant de laisser la parole à nos amis ici présents. Juste pour vous dire merci d'avoir été là pendant ces deux jours, parce qu'il y a des têtes que j'ai vues depuis hier, j'ai bien repéré. Et voilà, donc ça a été deux jours vraiment intéressants avec ces auteurs indiens, ces traducteurs. On a bien voyagé et je voulais donc finir ces deux jours avec non pas des Indiens, mais des Français, des photographes qui sont partis là-bas, qui ont vécu une belle aventure. Et voilà, ils vont nous en parler. Ce sont donc les photographes de Tendance Floue. Et bah, je leur laisse la parole. On aura aussi, évidemment, l'occasion de voir les images sur le grand écran. Merci, bonne fin de soirée et à la prochaine.
Bonsoir. Donc on va un petit peu parler de l'aventure de Tendance Floue en Inde. C'est moi qui ai eu l'idée de les inviter avec Bénédicte Alliot, qui était à l'époque attaché culturel à l'ambassade de l'Inde, avec qui on a monté cette aventure. L'ambassade de France en Inde. Et en fait, toute l'histoire a commencé parce que ça fait 30 ans que je voyage en Inde et que je vis en Inde. Et pendant 4 ans, j'ai vécu là-bas, de 1999 à 2001. Et bizarrement, quand j'ai vécu là-bas, je me suis rendu compte que l'Inde, dans laquelle je voyageais depuis si longtemps, en tant que voyageur, en tant que touriste, en tant qu'étranger de passage, ne ressemblait pas du tout à l'Inde que j'ai vécu, que j'ai connu quand j'ai vécu là-bas. Et je me suis demandé pendant tous les 4 ans que j'ai passé là-bas, pourquoi est-ce que les souvenirs de l'Inde que j'avais en tant que voyageur là-bas ne correspondaient pas à l'expérience que j'étais en train de vivre en y habitant et en y travaillant. Et je me suis du coup demandé, parce que je suis toujours photographe, je me suis dit, mais comment que ça se fait que l'Inde dans laquelle je vis, je ne l'ai jamais vue en photo? Parce que, comme vous le savez, l'Inde est sans doute un des pays les plus photogéniques du monde. Et tout ce que j'avais vu et tout ce que je connaissais de l'Inde photographique pendant les 30 ans où j'ai voyagé là-bas, n'était pas du tout l'Inde dans laquelle j'ai vécu. Et j'ai commencé à faire des recherches à partir de 2005 sur des photographes qui auraient montrer cette Inde contemporaine, cette Inde de tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, en 2005, il y avait encore très très peu de photographes qui travaillaient sur cette Inde non exotique. Et j'ai donc commencé à chercher des photographes qui avaient pu travailler là-bas, et j'en trouvais très très peu. Et bizarrement, à partir de cette époque-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver d'image de ce pays que j'avais découvert en tant qu'habitant? Et petit à petit, j'ai cherché, j'ai commencé à trouver des images, et m'est venue l'idée de faire un livre qui rendrait compte de cette Inde non exotique. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de fabriquer ce livre à partir d'images de photographes qui travaillaient sur ce sujet. Et comme il y en avait peu, aussi bien en Inde qu'en Europe, j'ai fait un livre en rassemblant des images d'une trentaine de photographes, 15 photographes indiens et 15 photographes européens. Et toute l'expérience que j'ai après partagée avec Tendance Floue et a commencé avec la fabrication de ce livre, le fait de rassembler des gens qui avaient travaillé sur cette Inde d'aujourd'hui. Et au bout d'un moment, quand j'ai eu suffisamment de matériel, j'ai proposé aux Rencontres d'Arles de faire un espèce de panorama des photographes, des jeunes photographes indiens qui parlaient de cette problématique. Et en 2007, on a fait un grand programme d'exposition où il y avait 13 auteurs qui ont montré des travaux sur l'Inde contemporaine. Et c'était assez marrant parce qu'à cette époque-là, je me rappelle, j'ai fait pas mal de visites d'exposition avec le public, et j'ai eu beaucoup de réactions de, 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 de visiteurs qui disaient, mais je comprends pas pourquoi vous montrez une Inde qui ressemble tellement à l'Occident, en fait. Et il y a eu beaucoup de réactions très, très, assez violentes de gens qui disaient, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de montrer une Inde qui ressemble aussi peu à l'Inde exotique et romantique avec laquelle on fantasme tellement et qui donne tellement envie de voyager là-bas. Et donc on a fait ce programme d'exposition avec les rencontres d'Arles et puis le service culturel de l'ambassade de France en Inde. Et au moment où on a fait cette exposition, Tendance Flou présentait le travail qu'ils avaient fait sur la Chine et qui s'appelait Made in China. Ils ont fait une projection aux rencontres à cette époque-là. Et donc, avec Bénédicte Alliou, on a vu cette projection. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne leur demanderait pas de venir faire la même chose en Inde et de venir faire un travail sous cette forme-là en Inde l'année suivante. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Alors, on va peut-être vous présenter d'abord Tendance Flou et ensuite ce que peut être les projets Made in, puisque donc comme elle a cité le Made in China, après il y a eu le Made in India et depuis le Made in France et le Made in Sète, qui est donc dans la ville de Sète. Nous, Tendance Flou, sommes un collectif de 14 photographes qui existe cette année depuis 20 ans et qui a pour particularité, au-delà des travaux individuels de chaque photographe, de travailler ensemble, collectivement, sur des projets qui peuvent être extrêmement différents. Donc pour en citer quelques-uns, on avait fait il y a presque une dizaine d'années, en 2003, un projet sur une route à travers l'Europe qui consistait, avant l'entrée, c'était à l'époque où il n'y avait que 15 pays dans l'Union européenne et 10 allaient rentrer, donc avant l'entrée des nouveaux, de faire une route qu'on a imaginée qui traverserait à un moment ou un autre chacun des pays. Et le principe était de le faire sous forme de relais, c'est-à-dire qu'on avait une voiture que chaque photographe utilisait pendant une quinzaine de jours et qu'il repassait au suivant, et ainsi de suite, comme ça, pendant 6 mois, de façon à tracer cette route photographiquement. On a fait d'autres projets un peu de ce type-là, et c'est vrai que les Made in, alors je vais peut-être passer la parole à Cécile, qui a été rédacteur en chef sur tous les Made in, mais les Made in étaient dans la continuité de ces travaux collectifs et de cette envie d'aller ensemble, et là, en l'occurrence, ensemble, en même temps, dans un même lieu.
Juste avant, pour un petit peu compléter sur la présentation de Tendance Flou, Olivier vient de le dire, mais la particularité de Tendance Flou et qui peut expliquer pourquoi de tels projets peuvent naître, c'est qu'on a l'habitude de se réunir le mercredi soir. Nos locaux sont à Montreuil, en banlieue parisienne. Et ce qui est intéressant autour de ça, c'est que quand les photographes sont à Paris, qu'on n'est pas en déplacement pour un reportage ou pour un travail à l'étranger ou en province, on se retrouve le mercredi soir et c'est cette espèce de réunion qui fait qu'on met une idée sur la table, une deuxième, une troisième. Et cette confrontation-là fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Et la naissance des Made in est venue de ça. C'est-à-dire qu'il y a un photographe, Bertrand Meunier, qui voulait absolument nous amener en Chine à l'époque, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la Chine. On était à la veille des Jeux Olympiques, donc il disait ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe en Chine et notamment à Pékin. Et on a commencé à monter un projet, un deuxième, avec des synopsis assez forts sur lesquels on avait travaillé avec Cécile à l'époque. Et de fil en aiguille, on n'a pas trouvé de financement parce que le projet coûtait cher. Ah bon? Donc je passe la parole à Cécile. Pardon. Non, mais ce projet-là coûtait assez cher et du coup, on a eu l'idée de dire ben, finalement, on va y aller nous-mêmes, un peu sur un coup de poker. Et on va faire une revue à Pékin, tous ensemble, sans financement. Et ça a fait que derrière, quand on est arrivé à Pékin, on avait cette énergie de se dire il faut absolument le faire, et est née l'idée de le faire en une semaine, 10 jours. Voilà, je te repasse la parole, Cécile.
Gilles est en train de faire ma partie, on s'était réparti les rôles. Moi, je suis la seule personne du groupe qui ne fasse pas partie de Tendance Flou. Mais je les connais très bien, c'est des amis de longue date. Je suis journaliste et j'ai collaboré depuis une dizaine d'années bientôt à leur projet. Et la caractéristique de Tendance Flou, c'est d'être un groupe de photographes comme l'a évoqué Olivier et comme vient de l'évoquer Gilles, qui a pour vocation de, à certains moments de leur vie de collectif, non seulement de produire des travaux chacun de leur côté et parfois de les mettre en commun, mais aussi de produire des travaux en commun au même moment, au même instant, en tout cas. Donc un travail qui soit réellement collectif depuis le départ du projet. Et en effet, comme vient de le dire Gilles, il y avait les Jeux Olympiques de Pékin arrivés. Donc Tendance Floue, c'est aussi un collectif, c'est des photographes qui travaillent avec la presse. Donc tout ça tournait dans les têtes de tout le monde. Ils m'ont proposé de m'associer à eux avec un autre journaliste qui s'appelle Vincent Réa et de réfléchir à un projet qu'on pourrait proposer à des titres de presse. Donc Gilles disait qu'on n'avait pas trouvé de financement pour partir tous à Pékin faire ce projet à la fois photographique et journalistique. Mais c'est pas que ça. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait à l'époque 11 photographes et nous étions deux journalistes. Donc 11 photographes, ça veut dire 11 regards sur une même ville avec éventuellement 11 thématiques de travail, avec le choix qu'a toujours fait Tendance Floue de pouvoir croiser ses regards, faire s'entrechoquer les photos, les faire se répondre, et que tout ça en fait sort des cadres habituellement acceptés par la presse. En fait, il n'y a pas d'espace. Vous connaissez la presse française comme moi, il y a très peu d'espace où on puisse comme ça proposer des projets qui prennent beaucoup de pages et qui sortent d'une convention qui est une narration photographique avec un point de vue. C'est très compliqué de trouver cet espace-là de diffusion. Donc c'était pas seulement que personne voulait nous payer des billets d'avion pour y aller, mais c'est aussi que l'espace éditorial n'existait pas. Donc on s'est décidé à y aller tous ensemble, malgré tout, avec très peu de financement, si je me souviens bien, proche de zéro, je ne me souviens plus.
Il y avait un financement d'Olympus pour les billets.
Voilà, il y avait un sponsor qui nous payait les billets. Et le projet a démarré comme ça. C'est pour vous raconter la jeunesse des Mad In, qui s'appelle Mad In, parce que nous avions décidé donc de fabriquer cette revue à Pékin en même temps que nous la produisions. Donc, c'était 11 photographes qui produisaient leur histoire photographique dans Pékin et deux journalistes qui écrivaient, mais aussi rassemblaient des textes éventuellement qu'on pouvait leur confier. Et en même temps, il fallait fabriquer la revue, donc la faire sur place. Donc, ça aurait été « Made in China ». L'entreprise était tellement folle que nous l'avons appelée « Mad In ». Ça a été la genèse de ces « Mad In ». Voilà, c'était le premier. Donc, ça a été le premier exemplaire et la première expérience a été faite en Chine.
Donc, je rajoute juste par rapport au texte, justement, vous étiez deux journalistes, mais il y a eu dès le premier numéro, donc dès le Made in China, la volonté de travailler avec des gens sur place, c'est-à-dire que beaucoup d'écrivains ou journalistes chinois ont écrit dans le Made in China. Calligraphe, graphiste, etc. Et ça a été quelque chose qu'on a gardé ensuite, notamment sur le Made in India, c'est-à-dire que les photographes sont français, donc sont étrangers au pays dans lequel ils débarquent, avec ce que ça comporte de méconnaissance et justement de confrontation à l'exotisme du pays, comme disait Alain tout à l'heure. Et par contre, les écrivains ou journalistes ou poètes, etc., sont des gens de locaux, donc des Indiens pour le Made in India et des Chinois pour le Made in China.
Voilà. Ensuite, il y a eu cette invitation de Bénédicte Alliot, qui est donc l'invitation de l'ambassade de France en Inde, à reproduire cette expérience que nous avions vécue plus comme une performance pour notre part, finalement, qui avait donné lieu à un objet, une revue qui avait été éditée et vendue, mais qui avait été vécue pour nous comme vraiment une performance, quoi, faite dans l'urgence, avec très peu de moyens et devant à la fois produire et faire. On a été invités ensuite, donc à l'initiative d'Alain et à l'invitation de Bénédicte Alliot, à reproduire, à réitérer cette performance en Inde. Et peut-être qu'on va regarder le résultat avant qu'on puisse vous en parler plus dans le détail.
Oui, on va regarder le contenu, un petit résumé du contenu du Made in India.
Je voudrais juste rajouter, parce que par rapport à la thématique de l'Inde vue par, qui est celle qui regroupe ces deux journées, c'est vrai qu'on avait, nous, avant de faire ce projet, on en a beaucoup discuté avec Cécile, avec Alain, avec Bénédicte et puis avec les photographes. Donc le principe du MAD, vous l'avez compris, c'est d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas ou très peu et de se confronter à cet endroit, c'est-à-dire d'avoir une photographie qui, contrairement à des projets qu'on peut faire par ailleurs qui s'étale sur plusieurs années, là c'est de le faire de façon extrêmement spontanée et avec donc une grosse part de risque, c'est-à-dire qu'on voit le pays, il faut tout de suite un rendu photographique et tout de suite un rendu dans la revue, donc il y a quelque chose de très brut et moi je trouve que c'est un des intérêts du MAD, et vous pourrez en voir le résultat, c'est qu'il y a une certaine fragilité, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont inattendues, et c'est ce qui en fait la richesse, mais aussi les faiblesses. C'est ce que je trouve aussi intéressant dans ce concept du MAD. Et c'est vrai que, par rapport à ça, l'Inde était compliquée, parce que l'Inde est un pays chargé de clichés, et du coup, nous, on s'est beaucoup questionné là-dessus en se disant oh là là, attention, là on débarque à je sais plus, en Inde on est combien, 11 photographes aussi je crois, on débarque à 11 dans un pays qui a été surphotographié, il faut faire extrêmement attention de pas tomber dans les panneaux habituels du photographe qui arrive en Inde ou même de l'étranger d'une façon générale qui arrive en Inde, et c'était pour nous une vraie problématique et un vrai questionnement. Et donc après voilà, on vous racontera par la suite justement les réactions des uns et des autres, parce que chacun a vécu l'Inde différemment, et c'est comme toujours avec l'Inde, c'est à chaque fois une expérience individuelle, et là ça se ressent dans ce que vous allez voir.
Et puis après la projection, on parlera aussi un petit peu des réunions préparatoires à ce voyage qu'on a eu, c'est-à-dire les dialogues, les conversations et les débats qu'il y a eu entre Bénédicte et moi et le collectif pour justement savoir comment on pouvait lancer des photographes qui ne connaissent pas le pays ou qui ont une représentation du pays trop préformée, et sur comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ce genre de problématique qui, par rapport à l'Inde, est un vrai enjeu. Voilà, on peut faire la projection. Alors là, vous avez vu une version courte de la projection. On a une autre version qui est deux fois plus longue, où on a beaucoup plus d'extraits de textes des auteurs indiens qui ont travaillé avec Tendance Floue sur le projet du livre. Tu peux peut-être dire deux, trois mots sur les auteurs qui ont travaillé sur le projet.
Alors, ça, c'est une projection, bien sûr, mais le résultat de ces expériences, à la fois en Chine et ensuite en Inde, a été une revue. Et en Chine, nous étions deux journalistes à travailler avec les 11 photographes. Nous avions beaucoup écrit l'un l'autre sur le même principe que les photographes, c'est-à-dire une improvisation sur place. Et des calligraphes nous avaient offert leur calligraphie. Certains auteurs avaient participé. En Inde, ça s'est passé vraiment différemment. En réitérant cette expérience, et Olivier en a dit deux mots tout à l'heure, mais on en reparlera, on s'est quand même tous, journalistes et photographes, retrouvés confrontés à la difficulté à la fois de regarder et d'écrire sur cet endroit, sur ce pays, et sur ce qu'on y trouvait, sans être à la fois paralysé par la quantité de clichés qui pouvaient nous étouffer. Donc les photographes vous parleront des solutions ou des pertes que chacun a eues. Et nous, les deux journalistes, on a opté pour une solution carrément radicale, c'est qu'on a décidé de ne pas écrire. Parce que on sentait que là, avec le délai qui nous était imparti et dans l'idée de cette performance, on allait tomber dans quelque chose d'abyssal qui allait nous noyer. Et spontanément, ce qui nous est venu dans notre réflexion sur place, puisque ça commence toujours quand même par un temps de réflexion et de débat entre nous tous, a été de se dire cette fois-ci, pour cette expérience-là, ce qui serait riche, ce serait de confronter ce que les photographes vont pouvoir rapporter de ce pays en si peu de temps, avec cette contrainte-là, hein, qui est celle des Madines, à ce que des auteurs indiens ont envie de dire de leur propre pays avec les mêmes contraintes de temps. C'est-à-dire que, par l'intermédiaire de l'ambassade de France de Bénédicte Alliot et du bureau du livre, qui ont bien volontiers nous ont mis en contact avec des écrivains indiens qui ne nous connaissaient pas du tout. On a contacté donc 14 personnes différentes. Il y avait des écrivains, mais il y avait aussi des journalistes, il y avait aussi des militants. Des poètes, et on leur a proposé de participer à cette expérience dans le même temps que nous la faisions. Et ça a été fantastique cette fois-là, parce que en fait tout le monde a accepté. Hein. On s'attendait pas du tout à ça. On se disait bon, c'est une entreprise un peu folle. On débarque nous d'Europe, on propose ça soudainement comme une expérience. Les gens ne savent pas qui nous sommes. Que peut-il se passer ? Et en fait. La plupart des auteurs que nous avons contactés ont accepté quasi immédiatement de se lancer dans cette aventure. Et donc on disposait du même temps, le temps dont les photographes disposaient, eux en disposaient pour produire un texte sur ce qu'ils voulaient. En fait, ils avaient une carte blanche et nous faisions le pari qu'à la fin du temps imparti à la fois aux auteurs et aux photographes, on pourrait réunir cette matière et essayer de trouver des échos ou des oppositions, enfin des chocs en tout cas, entre le regard que les photographes de tendance floue français auraient eu et les mots des auteurs indiens. Voilà, c'est ainsi que s'est passée la production des textes parallèlement à la production des photos.
C'est vrai que Bénédicte et moi, on a eu une surprise absolument divine de voir que les délais ont été respectés de tous les côtés. Et c'est un des grands miracles de ce livre, c'est d'avoir réussi à réunir tout le matériel nécessaire dans les délais impartis.
Ouais, puis la différence en Inde avec la Chine, en Chine on était tous à Pékin, on travaillait tous sur Pékin, et la rédaction entre guillemets de la revue était à Pékin dans un hôtel. Et là, en Inde, on avait pris le parti de dire que chacun irait un peu où il a envie d'aller. Et du coup, on était un peu répartis sur tout le territoire indien. Moi, je me souviens que j'étais à Mumbai. Et notamment, j'ai eu plusieurs fois Cécile au téléphone où on évoquait les textes, justement, en disant, t'en es où au niveau des textes, comment ça se passe, etc. Et elle me disait, tu vas voir, il y a des textes qui répondent super bien avec ce que tu es en train de faire à Dharavi, sans avoir vu les images. Donc après, quand on est rentré, qu'on a vu les photos ensemble, etc. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Cette notion d'urgence dont parle Cécile, c'est quelque chose de super important, parce que souvent, on part sur, soit on part pour la presse sur des travaux très courts, soit on part sur des travaux qui sont des boulots au long cours. Donc on a le temps, on a le recul, et là on est sur quelque chose de très court qu'on voit immédiatement et on voit la revue se faire au fur et à mesure. Donc il y a quelque chose de vraiment excitant dans un projet comme celui-là.
Il y a eu un d'assez beau moment aussi quand vous êtes tous rentrés de reportage chacun de votre côté. Tout le monde s'est réuni dans un hôtel à Old Delhi. Vous aviez tous investi un sixième étage dans un petit hôtel là-bas. Et la salle de rédaction était installée sur la terrasse de l'hôtel. Donc il y avait un grand mur sur cette terrasse sur lesquelles étaient accrochées toutes les vignettes de toutes les photos qui avaient été faites. Et le livre se fabriquait pendant ces 10 jours sur place. Et avec Bénédicte, on a invité tous les photographes indiens qu'on connaissait et les artistes qui étaient aux alentours de venir voir le processus de création. Et il y a eu des très beaux moments d'échange à ce moment-là sur cette façon de faire collectivement quelque chose.
Ouais, je me souviens d'ailleurs que les photographes, enfin les gens qui sont venus, ont été assez surpris de venir à un vernissage de vignettes. Parce que on fait des petites sorties en comme des photocopies, quoi. On les colle au mur pour regarder un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc on avait mis les tables, enfin un petit peu tout ce qu'il faut pour un vernissage. Et au mur, il y avait des vignettes, il y avait des morceaux de texte. Enfin, ils étaient vraiment. On avait vraiment invité les gens à venir un peu dans ce qu'on a reproduit récemment à 7 d'ailleurs, de venir un petit peu pendant la partie créative du travail. C'est-à-dire de vraiment être là et de voir des images au mur et de voir ce qui se fait et se défait. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, je pense, pour les gens qui ont pu venir à ce moment-là.
Alors ça, c'est presque la fin du processus en Inde, mais peut-être qu'on peut revenir ensemble sur, comme le thème de notre présence à tous ici, c'est l'Inde vue par. Peut-être qu'on pourrait revenir sur les difficultés qui se sont posées à chacun, que j'évoquais là il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on voyait et qu'on ne voyait pas ?
Comme tu disais tout à l'heure, en fait, sur chaque projet, on a des longues réunions pendant les mois qui précèdent le départ et durant lesquelles chacun évoque ses envies. J'ai envie de travailler là-dessus, j'ai envie d'aller dans telle ville, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà beaucoup discuté, notamment avec Alain, suite à son livre Indian Now, sur la problématique de représenter l'Inde aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'inquiétudes à chaque fois que quelqu'un disait, bah moi, Gilles disait, moi, je vais aller dans le bidonville de Dharavi, que vous avez vu donc à Bombay. Un tel autre disait, moi je vais aller à Bénarès voir comment on meurt à Bénarès, et un troisième disait, moi je vais à Calcutta. Enfin voilà, donc je me disais, mais on tombe exactement dans tout ce qui a déjà été fait, et du coup on risque de tomber dans une Inde, encore une fois, qu'on a déjà vu et revu, et qui comme disait Alain tout à l'heure, qui est une Inde à la fois qui est réelle, mais qui est aussi issu d'un certain exotisme photographique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça, c'est vrai que c'était une vraie inquiétude, et que moi je me suis dit, mais si ils partent là-dessus, il faut absolument que je fasse un truc sur l'Inde moderne, parce qu'elle existe aussi, et donc je suis allé dans les entreprises à Hyderabad, high-tech, ultra informatisées, etc., pour faire un peu contrepoint par rapport à ça. Et c'est aussi encore une fois, tout notre fonctionnement collectif, d'essayer comme ça, à 10, 11, 12, 13, par la multitude de regards, d'essayer de donner une idée générale, d'avoir un sentiment plus qu'une idée sur l'Inde. Et c'est vrai que, par définition, l'Inde, il y a tellement d'Indes les unes encastrées dans les autres que c'était assez intéressant justement de le jouer de cette façon-là, en étant plusieurs avec chacun un regard extrêmement particulier et extrêmement subjectif. Chacun a son regard qui est le sien, et à Tendance Loup, on défend ardemment cette liberté. C'est-à-dire que quand moi j'avais des moments d'inquiétude, je disais, mais les mecs, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Ils me disaient, mais tu nous emmerdes. Non, on est libre, chacun fait ce qu'il veut, comme toujours à Tendance Loup, c'était cette problématique-là. Puis après, on en reparlait, on était de nouveau inquiet, enfin, etc., etc., quoi. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté par rapport à l'Inde. Et encore une fois, on voit dans l'expo qui est en haut, il y a un des artistes qui a dit, moi je ne vais pas y aller, un des artistes français qui a dit, moi je ne vais pas y aller parce que j'ai trop peur de l'exotisme et de céder aux clichés. Bon, moi je ne suis pas partisan de cette position-là, mais c'est vrai que je le comprends, parce que c'est vrai que c'est une vraie difficulté quand on va en Inde.
C'est d'autant plus vrai que moi j'ai pu observer que jusque dans les années 2000, les photographes indiens eux-mêmes avaient beaucoup de mal à se sortir de cette Inde exotique. Moi j'avais été très très étonné de pendant toute cette période où j'ai cherché des images d'une Inde éloignée de cette aura romantique post-coloniale. Il y avait très très, c'était pas du tout une vision qui était en cours chez 90% des photographes indiens à l'époque, d'autant plus que jusque dans les années 2000, la photographie en Inde, c'était le photojournalisme, et il n'y avait pas du tout cette notion qu'on connaît en Occident de photographie contemporaine, artistique, reliée au marché et à l'art contemporain et tout ça. Et tout ce qui s'est passé à partir des années 2000 est absolument incroyable de fulgurance, parce que c'est tout d'un coup, il y a eu une espèce d'explosion et d'urgence, aussi bien chez les photographes indiens que chez les photographes non indiens, d'essayer de parler de ce qui était en train de se passer en Inde, et qui, par rapport à la Chine, était très en retrait sur le regard critique de la transformation de la société. Et c'est vrai que ce mouvement-là qui a débuté dans les années 2000 a été incroyablement rapide et vraiment fulgurant, quoi.
Juste pour compléter un petit peu ce que vient de dire Olivier, c'est vrai que la particularité de Tendance Loup et d'un projet comme celui-là, c'est que en tant que photographe, on peut se permettre d'aller regarder vraiment par un bout très, 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 très précis. Moi, si je prends mon cas, j'étais à Dharavi et j'ai choisi de n'être que chez les gens, de absolument pas photographier, à part à la fin où je... Il y a une image dans la revue notamment où on découvre Dharavi dans sa globalité, mais à aucun moment on est dans la rue, on est au milieu des ordures, etc. On est vraiment tout le temps chez les gens. Et ça, cette possibilité de faire ça, c'est parce que je sais que Olivier va montrer lui une partie de l'Inde moderne. Meyer va faire ce que vous avez vu, ce qu'on a appelé les portraits décalés, où il fait des portraits qui reviennent un peu régulièrement, il photographie des gens. Et ensuite, il fait des paysages ou des lieux, il décale les gens, il met les gens dans d'autres endroits que là où ils sont naturellement. Et ça, la force du collectif, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'on peut aller très loin sur un terrain parce qu'on sait qu'on travaille à plusieurs sur un projet comme ça.
Après, ce que je pense intéressant de raconter aussi, c'est que, bien évidemment, maintenant, la revue est faite, la projo est montée, il y a un sentiment de... que ça a été simple, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, en fait, ça a été aussi une série de catastrophes qui font partie de l'expérience. Donc, pour vous en donner quelques exemples, il y a plusieurs photographes qui ont mis un temps très très long avant de pouvoir prendre leur première photo, parce qu'ils étaient perdus, en fait, dans ce qu'ils voyaient et dans l'impossibilité absolue de fixer leur regard sur quelque chose, de se concentrer et d'aboutir à une série. Donc, par exemple, comme il n'est pas là, je peux balancer. Patrick Tournebeuf, qui a fait la série sur les immeubles en construction, qu'il a appelé Next City, n'était pas du tout parti dans cette idée-là. Quand il est arrivé à Delhi, il a dit « Moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les lieux de culte. » Donc, c'est un photographe qui photographie à la chambre photographique. Ça donne toujours... il a une possibilité comme ça de photographier les bâtiments dans leur intégralité. Puis bon, après, il y met d'autres choses, mais techniquement, c'est ça. Et après une semaine d'errance dans Delhi à la recherche des lieux de culte, qui en fait, pour qui connaît l'Inde, sont à la fois partout et nulle part, le culte est à chaque carrefour, chaque bout de trottoir est également investi d'un moment de culte, ça c'est possible. Il s'est retrouvé en fait complètement perdu dans les pré-images qu'il avait en tête, et à tel point qu'il a abandonné, quoi, qu'il en a été malade, il a eu mal au dos, il dormait pas la nuit, et puis au bout d'un moment, son regard a accroché sur autre chose, qui étaient ces immeubles en construction qui ressemblent aussi à des monuments d'une certaine manière, et il a pu se lancer là-dessus et construire sa série là-dessus, et au final ce qui rapporte de l'Inde, c'est ça, mais c'était pas du tout parti de cette manière-là. C'est un exemple des difficultés qu'ont rencontré plusieurs photographes, je vous en donne un, mais il y en a d'autres qui ont mis vraiment beaucoup de temps à pouvoir démarrer leurs photos, perdus qu'ils étaient dans la multiplicité d'images et le phénomène de noyade que peut générer ce pays. Pour qui l'a visité, c'est un sentiment assez commun et auquel les photographes n'échappent pas, en tout cas.
Mais c'est vrai que ça, c'était le cas sur les deux, sur le Made in China comme le Made in India, c'est d'arriver avec une idée préconçue de sujet et une fois sur place, de se prendre la réalité en pleine figure et de se rendre compte que l'idée préconçue qu'on pouvait en avoir ne fonctionne pas et que du coup, d'être effectivement complètement perdu, ce qui est très déstabilisant, surtout quand c'est dans un laps de temps très court, parce qu'on travaille sur deux, trois semaines, et ensuite de se retrouver, effectivement, de devoir malgré tout amener quelque chose et sortir quelque chose d'intéressant. Quoi. C'est vrai que c'est la difficulté à chaque fois.
Oui, puis c'était pas faute de vous avoir prévenu, parce qu'on a fait au moins une quinzaine de réunions de ces fameux mercredis où on a discuté pendant des heures et des heures tout ce qu'il fallait faire et pas faire, et je peux vous garantir que ça a servi à rien.
Ah, puis en plus, l'Inde, peut-être plus que la Chine, j'ai été très surpris parce que je connaissais l'Inde et que beaucoup de photographes ont voyagé à Tendance Loup, et j'étais très surpris de voir que certains photographes étaient à ce point déstabilisés. Il y a des photographes qui ont été en Afrique, qui ont été partout dans le monde, qui n'ont jamais eu un choc comme ça, et c'est pas forcément ceux qu'on pense être les plus... c'est très surprenant de voir comme l'Inde a ce côté extrêmement déstabilisant pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres, quoi.
C'est vrai que moi, moi qui ai voyagé pendant 25 ans là-bas avant de m'y installer, pendant 25 ans, je n'ai pas fait une seule photo. Et c'était très drôle parce que les gens qui me connaissaient, qui savaient que j'étais photographe, qui me disaient « Ah, mais t'es au paradis des photographes » et tout ça. Et je dois dire que c'était absolument pour moi une espèce de sidération de savoir où commencer.
Depuis, tu en as fait trois, je crois. Hein, c'est ça, depuis que tu as commencé.
J'ai fait trois photos. Non, mais c'est vrai, je pense que tous les gens qui ont déjà été en Inde connaissent forcément ce sentiment de noyade sous la accumulation de sensations visuelles, auditives, olfactives. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens se noyer littéralement de perdre leur sens commun sous l'accumulation des sensations. Quoi.
On a eu une hospitalisation également, c'est vrai, c'était pas facile.
Non, puis ce sentiment à chaque fois de faire une photo qui a déjà été faite, c'est vrai qu'à chaque fois que tu cliques en Inde, tu as l'impression de faire un copier-coller, tu te dis pourquoi je le fais, puisque j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette image. Et ça, c'est une vraie, encore une fois, c'est vraiment une vraie difficulté quand on va là-bas. On va peut-être vous laisser réagir aussi sur par rapport à ce que vous avez pu voir ou les questions que vous pouvez avoir sur la discussion en cours.
Pendant que vous réfléchissez à la question que vous allez nous poser, alors je vais insister sur ce qu'on vient de dire, qui est sur le fait que c'est très difficile. Je reprends l'exemple de Dharavi, mais moi je faisais le trajet entre le centre de Mumbai et Dharavi, et puis je suis resté quelques nuits dans Dharavi. Mais c'est vrai que quand je reprenais le train, ou que je rentrais à pied, ou que je prenais un taxi, ou bref, à chaque fois, on a envie de repartir sur une autre histoire. C'est-à-dire que tout donne envie. C'est l'inverse de certains lieux où on se retrouve parfois quand on part pour faire des photos, où on se demande bien ce qu'on va pouvoir photographier. À Mumbai, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on se retient même de ne pas repartir faire des photos à chaque fois parce qu'on sait qu'on va s'y perdre et qu'il faut qu'on reste quand même un minimum concentré sur ce qu'on essaye de sortir d'un bidonville comme Dharavi qui a été surphotographié. On en a beaucoup parlé dans les réunions préparatoires où on appelle ça des sujets marronniers, mais moi ça m'intéressait justement de me confronter à quelque chose qui est ultra photographié et de voir si c'était possible, intéressant d'en sortir quelque chose, quoi. Et c'est pour ça qu'après je suis resté que à l'intérieur chez les gens. Ça me semblait intéressant aussi de j'ai toujours l'impression que quand Dharavi ou d'autres bidonvilles, un peu moins maintenant, mais sont photographiés, les photographes refont les photos qui sont déjà faites. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font une photo qu'ils ont déjà vue, donc ils se disent, bah, c'est bon, j'ai fait une bonne photo et je vais ramener quelque chose. Moi, ça m'intéressait de pousser les portes et ça a été très compliqué parce que d'abord, les espaces sont totalement exigus. C'est très difficile de débarquer chez les gens comme ça et de leur dire, je vais vous photographier chez vous. Pourquoi ? Enfin, moi, je me mets à leur place. Hein. Si on venait sonner chez moi dans mon appartement à Paris, je dirais, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Et du coup, ça a été tout le travail a été sur cette approche-là et de rester avec eux et pour photographier des choses qui sont totalement banales, mais un déjeuner dans la maison dans Dharavi, c'est totalement banal, mais moi, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Ou quelqu'un qui regarde la télévision à l'intérieur de Dharavi, à l'intérieur du bidonville dans sa maison. Et voilà, ça m'a permis de me rendre compte à quel point la population de Dharavi est très diverse et très, très, très vaste. Ce que je soupçonnais absolument pas, enfin, je l'avais lu, mais de le voir à ce point-là, c'était assez intéressant.
Et c'est vrai que moi, j'ai été très frappé quand on a fait le programme d'exposition aux rencontres d'art et en montrant des photographes indiens, donc qui avaient pour la plupart photographié leur environnement proche, et ils étaient pour la plupart ce qu'on appelle de la middle class. C'est-à-dire des gens qui ont le même pouvoir d'achat que nous, en grosso modo. Et il y a eu énormément de visiteurs qui m'ont dit, mais c'est incroyable de montrer de l'Inde la même chose que chez nous. Il y a une quinzaine d'années, j'avais rencontré Dayanita Singh, dont on voit un des derniers travaux ici à l'exposition. Elle s'est fait connaître en fait en photographiant les riches indiens chez eux en noir et blanc, une photo très très classique, très occidentale dans la tradition documentaire. Et elle vraiment a, a, a,
s'est fait connaître internationalement en montrant des Indiens riches, mais c'est pas tellement par la qualité de son travail qui est indéniable, mais c'est surtout par le fait qu'elle a déchaîné des tempêtes de réactions contre elle de gens qui disaient mais c'est absolument scandaleux de montrer des gens riches en Inde. Et c'était c'est vraiment tout à fait symptomatique de l'approche qu'on peut avoir en tant que spectateur occidental d'images qui viennent déranger nos stéréotypes par rapport à l'Inde. Et elle m'a confirmé effectivement que c'est vraiment comme ça qu'elle a percé entre guillemets dans le milieu de la photographie et de l'art. C'est vraiment en brisant un tabou absolument énorme à cette époque-là. Et ce qui s'est passé en 2007 à Arles, en montrant des l'environnement quotidien de la middle class indienne, c'était exactement du même registre. Sauf que là, c'était plus des gens qui étaient très très riches, c'était simplement des gens comme vous et moi. Et oui.
Dans le film que vous avez montré, il n'y avait pas de titre ou sous-titre des photos. Je ne sais pas comment ça se passe dans le catalogue, mais quand vous débarquez entre guillemets chez les gens, est-ce que ces gens-là, après, ils ont un prénom, un nom, un âge, ou comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un quartier, une rue que vous avez dénommé, ou c'était juste les Indiens là-bas?
Là précisément, non. Effectivement, on n'est pas dans... Parce qu'on sort... pour le coup du champ du reportage, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... comme si on travaillait pour un magazine, c'est la volonté de la revue, c'est confronté à des textes, ensuite, mais on n'est pas dans quelque chose de documentaire, c'est un peu une impression, effectivement. On est plus sur une impression de, et une impression d'intérieur de Dharavi, que d'expliquer, de parler de telle ou telle personne en particulier, de raconter la vie de telle ou telle personne.
En fait, il faut bien comprendre que les Madines sortent réellement du cadre du reportage. C'est-à-dire que dans ces Madines, on n'est pas dans le journalisme, quoi. C'est autre chose. Et notamment, on est, comme vient de le dire Gilles, on n'est plus dans un cadre documentaire pur. Il y a aussi l'idée d'un sentiment et qui est donc subjectif. Notamment, il y a une subjectivité quand même très fortement assumée, en fait, qui est un mélange de subjectivité. Et en l'occurrence, pour le Madine, il y a aussi les subjectivités des auteurs indiens qui viennent s'entrechoquer avec les subjectivités des photographes français. Mais on n'est plus du tout là dans le cadre du reportage, qui répond à des codes journalistiques précis qui doivent être datés et précisés. On sort quand même vraiment de ce cadre-là.
Justement, même si c'est après pas acté sur la photo ou sous la photo, quelle était votre approche? C'est-à-dire, est-ce que vous avez donné un nom à ces gens-là? Est-ce que quand vous avez débarqué, entre guillemets, chez les gens, est-ce que c'était monsieur tel ou avec un prénom?
Mais vous vouliez dire quand le photographe rentre chez les gens, enfin, comment il s'y prend?
Voilà, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes, c'était après les connaissances, est-ce que vous avez suivi vos contacts, est-ce qu'ils ont... vu les photos après, oui. C'était un peu la démarche qui m'a intéressé.
Oui, mais nous, puisqu'on fonctionne aussi, on est tous, à tendance où on est tous issus du documentaire, du reportage, on travaille pour la presse régulièrement, etc. Et évidemment qu'on prend le même chemin, on prend la même technique, j'ai envie de dire. On note le nom des gens, on sait ce qu'on raconte sur chaque personne. Après, ce qu'on explique avec Cécile, c'est que... ce matériau-là, entre guillemets, on ne l'a pas utilisé pour la revue. Parce que pour la revue, on voulait justement sortir de ce champ-là. On est sur quelque chose, encore une fois, qui est plus une succession d'impressions, avec des choses très, très en profondeur, notamment dans certains textes ou dans certaines séries d'images. Mais là, pour le coup, pour Dharavi en particulier, on ne voulait pas rentrer forcément dans l'histoire de chacun. C'est un choix qu'on a fait éditorial ensuite, de pas justement documenter, légender.
Mais monsieur te demande comment tu t'y es pris pour rentrer chez les gens. Tu leur parles, tu retournes les voir.
Oui, bien sûr, oui. 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 Je l'expliquais un petit peu tout à l'heure. Évidemment, j'avais un interprète pour pouvoir parler avec les différentes personnes, parce que très peu ou certains parlent anglais, mais bon, c'était plus simple d'avoir un interprète. Et du coup, évidemment, il y a un dialogue assez long qui se met en place pour expliquer le projet, pour expliquer pourquoi c'est faire, pour parler même de Tendance Floue. J'explique un petit peu qui on est, que d'autres photographes sont en train de travailler avec des Rabad, etc. Et pour que les gens qui sont photographiés sachent exactement ce pourquoi moi je suis là. Enfin, c'est cette technique-là, entre guillemets, que moi je mets en place pour pouvoir discuter et les rencontrer, quoi.
Et je t'interromps, Gilles, mais moi, ce que je trouve intéressant dans le travail de Gilles, c'est que je parlais tout à l'heure de la difficulté d'aller dans un bidonville. Ce qui s'est beaucoup passé en photographie quand les gens vont dans des bidonvilles, dans une certaine forme de photojournalisme un peu classique, on va dire, c'est de pas montrer des gens, mais de montrer des victimes ou de réduire les gens à leur statut de pauvres, pour caricaturer, ou de victimes, etc. Et dans les bidonvilles, c'est quand même assez fréquent qu'au résultat, on a des photos extrêmement photogéniques, graphiques, etc., avec, comme vous le disiez, peut-être le nom de la personne, son métier, son âge, etc., mais qu'à l'arrivée, cette personne est, moi, selon moi, dans une certaine forme de photojournaliste, déshumanisée, parce que réduite justement à cette espèce de statut, voilà, le pauvre indien qui vit dans un bidonville. Et ce que j'aime dans le travail de Gilles, c'est que moi, j'ai pas besoin de savoir le nom des gens. De toute façon, ça changera pas forcément grand-chose de savoir exactement quel est leur métier ou leur nom. Ce qui m'intéresse, c'est de me rendre compte que ce que je vois là, c'est pas du tout ce que je pouvais imaginer justement d'un bidonville, et que c'est des gens qui sont certes pas des high class dont parlait Alain tout à l'heure, mais qui sont des gens qui ont une certaine forme de vide, avec un quotidien normal entre guillemets. Et j'aime dans cette approche la façon dont Gilles garde cette humanité que peuvent avoir les gens. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je trouve qu'ils ne sont pas réduits justement à leur statut répertorié comme ça, dans un côté un peu presque ethnographique, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Et encore une fois, c'est ce qui nous intéresse, nous, à Tendance Floue, c'est de revendiquer la subjectivité du regard. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, quand Gilles va à Dharavi, c'est de ne pas voir Dharavi, c'est de voir le regard de Gilles sur Dharavi. Et ça, c'est ce que nous, on revendique à Tendance Floue. À un moment donné, c'est le regard d'un photographe sur quelque chose. Ce qui est souvent le cas. Il n'y a pas qu'à Tendance Floue qu'on est comme ça. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on le revendique réellement, et a fortiori dans les Madines.
Et c'est exactement la même chose pour les textes. Quand toi, Cécile, tu demandes, on est sur le même registre, quoi. Tu demandes le regard d'un écrivain, d'un poète sur son pays.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, les cartes, enfin, on donnait des cartes blanches aux auteurs qui voulaient bien participer, mais ce qui nous intéressait, bien sûr, avant tout, c'était leurs sentiments. En fait, on ne cherchait pas des analyses. Une fois de plus, on sortait vraiment du registre, là aussi, du reportage, de l'explication. Dans cette expérience-là, il y a un désir de subjectivité, quoi, de tous les côtés, et que du croisement de ces subjectivités sorte un sentiment... Bon, qui est assumé, quel qu'il soit, quoi.
Bonsoir. Bonsoir. Ce que je voulais savoir, c'est quels sont les apports, enfin, qu'ont retenu les auteurs indiens par rapport aux photos qu'ils ont pu découvrir ensuite. Ont-ils découvert certains aspects de leur pays? Ont-ils été surpris? Ou alors, au contraire, ils se sont dit, ah oui, mais c'est tout à fait ça, vous avez réussi à vous fondre et à observer ce que nous-mêmes, nous pouvons observer au quotidien et que nous connaissons depuis des années.
Alors, en fait, ils découvraient les photos qu'après coup, puisqu'en fait, ils livraient leurs textes en même temps que les photographes livraient leurs photos. Il n'y avait pas de... l'un ne s'appuyait pas sur l'autre, quoi. Les photographes ne s'appuyaient pas sur les textes et les auteurs ne s'appuyaient pas sur les photos. Mais les retours que j'ai eus... en fait, ont été, comment dire, sans jugement, quoi, dans mon souvenir, hein, peut-être on a d'autres, Alain, mais sans jugement sur le regard qu'avaient eu les Français. Ils accueillaient le regard des photographes comme un regard, subjectif sur leur pays, qui était singulier au même titre que eux avaient un regard singulier, et au même titre que leur regard à eux, aux différents auteurs, était différent les uns des autres, en fait. Voilà, il n'y avait pas de clivage, en fait. Moi, je n'ai pas eu de retour sur un clivage.
Non, ce qu'il y avait pu avoir, juste quand on avait fait cette réunion dont Alain parlait tout à l'heure, ouais, sur la terrasse de l'hôtel, quand il y avait toutes les images au mur, les réactions, il y avait des réactions assez particulières de la part des Indiens sur les photographies de Meyer que vous avez vues. Ce sont les portraits qui s'intercalent entre chaque série. Donc, comme expliquait Gilles tout à l'heure, ce sont des gens photographiés d'un côté avec un lieu qui est mis derrière eux.
Ce sont
des photomontages. Et dans la plupart de ces photos, les gens ne sont pas là où ils devraient être. C'est-à-dire qu'en Inde, comme vous le savez, la société, chacun a un peu sa place. Et par exemple, vous avez vu des photos où il y a un hindou dans une mosquée, ou un intouchable dans un hôtel de luxe, ou des choses comme ça, où les gens, ce sont des portraits décalés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là où ils doivent être. Et ça, pour nous, européens, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, qui ne nous saute pas aux yeux. Je peux vous dire que pour les Indiens sur la terrasse, c'était une évidence. Les Indiens étaient sidérés. Certains disaient, moi je me souviens d'un Indien qui a dit, si je faisais ça, entre guillemets, je risque ma vie. C'est-à-dire que en tant que photographe, si je me permettais de faire un truc pareil, je prends un risque, quoi. C'était quelque chose d'assez beaucoup plus évident et beaucoup plus violent pour eux que ça ne peut l'être pour nous.
Mais sur les photos de Meyer, c'était pas spécialement les auteurs, en fait. Enfin, ce qui était intéressant sur ces photomontages, c'est que c'était tout le monde qui réagissait. C'est-à-dire, nous, on travaillait sur la terrasse de l'hôtel. Et sur la terrasse de l'hôtel, il y avait d'autres clients qui passaient, des serveurs, enfin, tout le monde passait sur cette terrasse. Et c'était des réactions qui étaient communes à toutes les classes sociales qui passaient sur cette terrasse. Voilà. C'est ça que je veux dire. Là, pour le coup, il y avait un choc.
Puis il y avait une espèce de résonance, un peu comme les cordes des sitars, les cordes sympathiques qui rentrent en harmonique avec les cordes qui sont effectivement frottées. Il y a des cordes qui résonnent toutes seules. Là, c'était un petit peu pareil. Une espèce de résonance entre les textes et certaines photos et certains textes. Et cette espèce de résonance là, c'est quelque chose qui est en plus des volontés de chacun et qui est une des beautés aussi de ce genre de projet. Mais c'est vrai qu'il y a aussi par exemple je sais qu'il y a des photographes indiens qui font des travaux qui ne montrent qu'en Occident, qui ne montrent pas en Inde. J'en connais deux ou trois qui montrent des photos différentes suivant qui sont chez eux ou qui sont en Europe ou aux États-Unis. Donc il y a encore des endroits où
par peur des réactions.
Par peur des réactions, tout à fait. Oui. Très bizarrement, alors qu'ils savent très bien qu'avec Internet ça va tourner et tout ça, mais il y a quand même encore un endroit où il y a encore des zones où qui sont encore imperméables. C'est très étrange. Et ça, c'est une chose, par exemple, qui en Chine n'existe pas. Alors que c'est un pays de dictature. Il y a des tas de choses qui s'articulent de manière très très différente.
Et depuis cette aventure, est-ce que certains d'entre vous sont repartis là-bas et ont découvert une passion pour ce pays ou pas?
Oui, on est plusieurs. Moi, j'ai vécu ces deux dernières années, donc c'était effectivement depuis le pays. Après, moi, c'est un pays que je connaissais déjà d'avant, j'y avais déjà un peu habité, donc je n'ai rien de très nouveau là-dedans. Mais c'est vrai que ce qui est toujours étonnant, encore une fois, avec l'Inde, c'est que moi, j'y avais déjà vécu. J'ai fait le Made in India où je l'ai revu, mais aussi je l'ai vu à travers les yeux des autres. Et ça, c'est très intéressant quand on est plusieurs aussi, c'est de le voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, il y avait l'événement Photoké, dont vous avez peut-être entendu parler, qui expose des photographes étrangers. Et moi, j'avais des photographes d'Inde qui étaient là ces jours-ci et que j'ai baladé dans Paris. Et comme vous l'avez sans doute fait aussi avec des amis à vous et étrangers, c'est pareil, c'est la même façon. Tout d'un coup, je vois Paris différemment parce que je le vois à travers les yeux des deux Indiens qui n'étaient jamais sortis d'Inde et qui étaient avec moi ces jours-ci dans Paris. Et là, c'était pareil. Le fait de le voir avec Tendance Loup, tout d'un coup, je l'ai vu différemment. Et le fait d'y retourner et d'y vivre plus longuement, c'est-à-dire d'y vivre 2 ans, et effectivement, quand on passe 3 semaines pour faire un Madin, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'urgence et c'est aussi on se prend le pays dans la figure comme ça, sans recul. Quand on y vit pendant 2 ans, tout d'un coup, il y a des choses qu'on voit complètement différemment. Moi, je sais que si je devais refaire le Madin aujourd'hui, forcément, après y avoir vécu 2 ans, il y a des tas de choses que forcément, je verrais différemment.
De même que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet de India Now,
En fait, j'ai cherché toutes les photos que moi, je rêvais de faire et que je n'ai jamais eu le courage de faire, ou le temps, ou, ou l'énergie. Donc, en fait, ça m'a... Après avoir passé 25 ans à ne pas faire de photos, j'ai passé maintenant, je pense, les 25 prochaines années à pu en faire parce qu'elles ont déjà été faites dans ce livre.
Et je te pose une question, Alain, sur ce que tu disais tout à l'heure sur la vision de l'Inde, enfin, notamment la vision qui a été faite à une époque où de montrer les riches en Inde, ça choquait les gens. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer dans un truc un peu inverse qui aujourd'hui, quand un Indien photographie les côtés, on va dire, négatifs ou la pauvreté dans son pays, est-ce que aujourd'hui, c'est pas plutôt ça qui pose problème aux autres? C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un photographe comme Achin Tobadra, qui est un photographe qui est assez engagé, qui photographie des choses pas forcément très positives sur l'Inde, justement, comme tu le disais tout à l'heure, a très peur des réactions de ses contemporains et des réactions violentes que les autres peuvent avoir par rapport à ça. La question, c'est est-ce qu'il y a 30 ans, quand Dayanita Singh a photographié les riches, ça a choqué tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas ce que la plupart des photographes indiens font, enfin, pour caricaturer, hein, est-ce que de photographier tout d'un coup à l'inverse des choses négatives sur l'Inde, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui choque les gens
C'est sûr que y a des nouveaux stéréotypes qui se sont créés autour de ça, mais je pense que la vitalité de la photographie maintenant en Inde est telle qui va se construire des choses tout à fait autonome et tout à fait intéressante par rapport à ça. J'ai pas du tout d'angoisse. C'est vrai que maintenant les stéréotypes ont bougé. C'est-à-dire que cet exotisme-là, il est définitivement ringard, aussi bien fait par les Occidentaux que par les Indiens eux-mêmes. Et ça, je pense, posait pas mal de problèmes à beaucoup de photographes indiens de se rendre compte que leur stéréotype préféré, qui était l'Inde exotique, était devenu quelque chose qui était totalement dépassé, quoi. C'est vrai qu'il y a tout un mouvement maintenant de remise à zéro des compteurs ou de remise à 1000 des compteurs qui est en train de se passer et qui est passionnant à observer. Mais d'ailleurs, c'est un des points qui, moi, m'avait toujours fasciné, c'est qu'il y a pour un pays d'1 milliard 200 millions d'habitants, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas d'école de photo, par exemple. Sinon, des écoles de photo techniques pour faire de la photographie commerciale ou de la publicité ou des choses comme ça. Il n'y avait aucune école d'art n'avait de département photo. Là, depuis 2 ans, il y a une école qui est à Ahmedabad qui a un département photo au sens où on l'entend en Occident, mais c'est vrai que c'est tout à fait sidérant de se dire ça.
Bonsoir. En fait, moi, je voulais en savoir un petit peu plus sur la complicité qui liait les photographes aux personnes qui sont photographiées. Notamment, on voit les personnes qui sont dans les bureaux, qui sont complètement avachies sur leur fauteuil. Et moi, ça m'interroge. Donc, ces personnes se sont laissées photographier comme ça. Ça ne leur posait pas de problème. Voilà, c'est tout.
Alors, je peux vous répondre parce que c'est moi qui fais ces photos. Moi, je ne cherche pas forcément une complicité avec les gens que je photographie parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient le plus proche de ce qu'il serait si je n'étais pas là. Donc, par contre, pour pouvoir faire des photos de gens comme ça, la règle d'or, c'est d'y passer du temps. C'est-à-dire que les gens, non pas deviennent mes amis, mes complices et fassent ce que moi j'ai envie qu'ils fassent ou acceptent ça, mais que les gens s'habituent à ma présence, me connaissent suffisamment pour m'oublier et être comme ils peuvent être habituellement. Ensuite, par rapport à la gêne qu'il peut y avoir, c'est vrai qu'en Inde, les gens, l'Inde est un pays d'image et l'Inde est un pays où les gens aiment la photographie, aiment en faire aiment se faire photographier. Ce qui n'est pas le cas de plein de pays. Il est beaucoup plus facile et agréable de faire des photos en Inde aujourd'hui qu'en France, par exemple, ou que dans des tas d'autres pays. Et donc, les gens n'ont pas... la plupart des gens, après, hein, je ne veux pas faire trop de généralité non plus, mais la plupart des gens n'ont pas de gêne par rapport à ça. Quand je les ai photographiés, les positions ne sont pas non plus... c'est pas extrêmement gênant, mais c'est vrai que les gens ne sont pas gênés du tout par le fait d'être photographiés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Pas trop d'hostilité, c'est ça ? Non, après, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des lieux qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des endroits, à Benares, par exemple, si quelqu'un veut faire des photographies des lieux où on brûle les morts, c'est un endroit où les gens peuvent avoir des réticences. Évidemment, enfin, il y a des endroits où c'est plus sensible que d'autres. Mais d'une façon générale, et c'est ce que je dis, et valable en Chine aussi d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de... C'est-à-dire que je ne suis pas très surpris par cette question, parce que c'est vrai qu'en France, on a un rapport avec la photographie qui aujourd'hui est plutôt négatif. C'est-à-dire que le photographe est quelqu'un de pas forcément bienvenu, et quelqu'un qui est perçu comme quelqu'un qui va prendre quelque chose, qui vient... Qui est un intrus. En Inde et en Chine, les gens sont contents d'être photographiés de la même façon qu'ils sont très contents de vous photographier. Moi, j'ai vécu 2 ans en Inde avec mes enfants. Ils se sont fait photographier par des centaines d'Indiens, et des tas d'Indiens ont voulu se faire photographier avec moi. C'est quelque chose d'assez... pour eux, c'est pas du tout le même rapport d'une façon générale que pour nous. Il n'y a pas encore, ou je ne sais pas, ou j'espère qu'il n'y aura jamais, ce rapport qu'il y a aujourd'hui en France, qui je pense était différent il y a, je sais pas, 40-50 ans, mais qui aujourd'hui, où le photographe est malvenu, il y a une hostilité. Et ça, on la ressent, nous, en tant que photographe, et moi, je trouve que je la ressens encore plus, quand ça fait 20 ans qu'on travaille, je la ressens plus peut-être qu'il y a 20 ans. Il y a une hostilité par rapport au photographe. Et en Inde, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas.
Oui, madame, vous vouliez poser une question.
Oui, tout à fait autre chose. Ce qui m'avait frappé quand je suis allée en Inde, c'est la lumière, la qualité de la lumière qui est extraordinaire, et des couleurs. Et j'aimerais comprendre le parti pris. J'ai feuilleté Made in India, le parti pris d'avoir pris un papier recyclé, d'avoir pris des graphismes donnés qui m'ont rappelé un peu ce qui a été très à la mode dans les années 95 à peu près, qui était un... vous savez, United Color of Benetton, il avait fait cette revue. Et donc ça m'a un peu rappelé comme look. Et j'aimerais comprendre pourquoi vous avez opté pour du papier recyclé, pour tout ça, alors que la lumière, je ne la retrouve pas. Voilà.
Juste une toute petite chose sur la lumière. La lumière en Inde, en général, si vous acceptez le lever du jour et le coucher du soleil, c'est une lumière épouvantable, parce que c'est très 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 souvent un ciel blanc avec beaucoup de brume due à la poussière et à la chaleur. Et moi, je trouve que, au contraire, la lumière en Inde, à part les moments qui sont photogéniques, c'est-à-dire le lever du jour et le coucher du soleil, sont des lumières très 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 dures. Donc c'est vrai que mis à part le travail sur la conception de la maquette et tout ça, au niveau de la lumière, ce que vous appelez cette belle lumière, c'est la belle lumière est sur des tranches horaires très 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 fines. Si je vous défie d'aller à midi où que ce soit pour faire des photos, vous serez épouvanté par la lumière.
Justement, c'est intéressant comme question, parce que ça amène l'idée que nous, l'idée, c'est de rendre compte aussi à un moment donné. Et on s'était posé cette question-là sur un précédent projet qu'on a intitulé Carrefour. Le principe était que les 10 photographes de Tendance Sous à l'époque, on était à des carrefours, des angles de rue, un petit peu partout dans le monde. Et ce qui nous intéressait, c'est de rester au même endroit, tous en même temps, encore une fois, et de photographier toute la journée. Et c'est assez rare, par exemple, de montrer une ville comme Yaoundé à midi. Très peu de photographes font ces photos-là, parce que c'est, encore une fois, une lumière très blanche. Et pourtant, c'est 80% de la journée, j'ai envie de dire. Les gens marchent toute la journée sous la chaleur, sous cette lumière qui est très blanche, et on ne la montre jamais. Et c'est assez intéressant, justement, de nous, en tant que photographes, de montrer ça aussi. de pas simplement faire le choix. Ça peut paraître contradictoire, mais pas simplement faire le choix d'une belle image, d'une belle lumière. C'est aussi de rendre compte de ce que c'est réellement.
Qui a choisi ? Non, mais excusez-moi, parce que là, j'ai pas compris les partis pris de mise en page, enfin, je veux dire éditoriaux, quoi. Je veux dire au point de vue artistique, c'est-à-dire pourquoi choisir ce papier ? Pourquoi
Il y a deux choses. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a travaillé avec des écrivains indiens, mais on a aussi travaillé avec un graphiste indien et on a aussi imprimé le Made in India en Inde, donc avec un éditeur qui est d'Hyderabad. Et par exemple, en l'occurrence, sur le choix du papier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une tranche très particulière. Tout ça, c'est fait sur place en collaboration avec des Indiens et aussi au regard de ce qu'ils avaient pu déjà faire. Et donc avec un choix, je dirais, qui est issu d'un échange. Et c'est vrai que le papier, c'est pareil, c'est un papier indien. Alors c'est vrai que le choix de faire un papier mat, c'est aussi le nôtre, parce qu'il existe aussi des papiers brillants en Inde. Mais encore une fois, tout ça, c'est fait, ce que vous parliez tout à l'heure, des éléments de graphisme qui vous font penser à des choses des années 90, c'est aussi l'univers du graphiste qu'on a utilisé, qui a aussi des références couleurs, peut-être qui sont des choses qui étaient ici à la mode dans les années 90, mais on a eu aussi ce choix de faire un mélange et un échange avec, voilà, encore une fois, des gens sur place.
Mais il avait 25 ans, le graphiste était un jeune graphiste. Oui.
C'était des options qui ont été prises par des Indiens avec vous, quoi.
En partie, ouais.
En concertation.
D'accord.
Le papier, je ne sais plus ce qui a présidé à notre choix de
on
papier mat.
On se retrouve super un papier mat, mais c'est un papier. Nous on l'aime bien. Nous, on le trouve beau, mais c'est
vrai. Moi, très honnêtement, je trouve ça très beau comme papier. On en parlait juste avant. Et en plus, je crois qu'on sortait aussi du Made in China, où dans le Made in China, on était sur un papier, au contraire, très brillant, très flash. Avec là en Inde, on est complètement dans un autre registre. On a une pochette en plastique, on a un truc Made in China rouge très présent. Là, on est dans une petite pochette que vous verrez quand vous regarderez, hein, qui est une petite pochette cousue sur place avec un tampon un peu Made in India comme ça. Donc il y a un vrai parti pris aussi parce qu'on trouve ça beau réellement.
Et après, il y avait d'autres choix qui étaient des choix d'utiliser aussi les outils qui étaient mis à notre disposition en Inde. Et donc, par exemple, vous voyez, la tranche, là, elle n'est pas d'eau carré-collée. On voit la colle. Donc, en fait, on trouve ça joli ou moche, peu importe. Mais en tout cas, il y en a plein des livres comme ça en Inde. Et il permet quelque chose de génial. C'est qu'il permet d'ouvrir complètement le livre et donc de voir une photo en double page et non plus moitié serrée.
Oui, d'habitude, ça...
Et ça, en fait, c'est ce qui était possible là-bas. C'est-à-dire qu'on l'aurait fait imprimer ici, ça, ce n'était pas des possibilités offertes. Donc, il y avait aussi l'idée d'utiliser tout ce qui était possible soudainement parce qu'on était dans un échange avec des graphistes, mais aussi des imprimeurs indiens. Voilà.
C'est vrai que moi, à l'époque, je ne les connaissais pas encore très, très bien et j'étais sidéré à quel point ils prenaient toujours la solution la plus risquée. Parce que déjà, utiliser du papier comme ça en France avec un imprimeur qu'on connaît, c'est déjà un petit risque. Alors, le faire là-bas, c'était carrément complètement cinglé.
Et après, vous posiez aussi la question de la maquette. Là, il y a vraiment eu l'apport d'une graphiste française qui travaille souvent avec Tendance Floue, qui s'appelle Justine Fournier, et qui est venue se greffer après aussi, alors qu'on avait déjà beaucoup monté la revue, que le graphiste indien avait apporté sa contribution, qu'on s'était tous imprégnés les uns des autres en quelque sorte. Justine est venue aussi mettre en musique la fin, donc il y a aussi sa patte à elle, quoi. Bon, c'est un joyeux mélange.
Je voulais juste rajouter quelque chose sur l'éditeur, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est quand même un des plus grands éditeurs de photographie désormais à l'international, qui est récompensé à travers le monde. Donc on avait affaire...
L'imprimeur.
Hein ?
L'imprimeur.
L'imprimeur, pardon. L'imprimeur. Et donc on avait affaire à Hyderabad, à quand même quelqu'un qui savait tout à fait pourquoi il prenait ces risques-là, il vous proposait de prendre ces risques-là.
Mais c'était quand même très risqué. Et c'est vrai qu'on a été absolument... C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de la qualité de l'imprimeur. C'est que c'était un pari qui était très, très, très 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 compliqué à gagner, et il a remarquablement réussi à le faire, quoi.
Pardon, je reviens juste sur le risque, puis après je me tairai. Mais de toute façon, c'est une aventure qui, de A à Z, était un risque. Parce qu'inviter un collectif, le collectif Tendance Floue, qui certes est certainement, qui est très connu en France et qui est connu dans d'autres endroits du monde, mais alors absolument inconnu en Inde, en tout cas à cette époque-là, où en dehors de... Il y a très peu de signatures françaises, disons, photographes, qui sont connus là-bas. Déjà, c'était quelque chose. Et qui plus est, de les inviter sur 3 semaines, qu'ils acceptent, hein, et qu'ils veulent. Parce que ces gens-là désirent venir 3 semaines pour essayer d'embrasser ou d'étreindre l'Inde face à des défis qui, des défis photographiques que vous avez décrits précédemment. Donc, de toute façon, l'imprimeur a réussi, à relever aussi un défi. Il a compris aussi qu'il fallait pas peut-être mettre ça dans un écrin un peu plus conventionnel, en tout cas en termes de livres, parce que c'était un projet photographique qui était quelque peu déviant par rapport à ce qu'on pouvait attendre par ailleurs.
Ah oui, juste pour ajouter, c'est moi qui avais fait le premier rendez-vous avec l'imprimeur parce que j'avais travaillé à Hyderabad. C'est aussi quelqu'un, au-delà d'être un excellent imprimeur, ce que tu disais, qui est réel, et quelqu'un qui avait aussi un enthousiasme comme nous on peut avoir quand on est entre nous, tout d'un coup de dire ok, on va prendre le risque de faire un truc complètement atypique, qui est pas... C'est vrai qu'autant il y a déjà des livres avec des couvertures comme ça, avec des dos collés comme ça en Inde, autant un livre sous cette forme-là, fait collectivement, etc. et tout, c'est vrai que ça reste un ovni. Et il avait cette vraie passion d'imprimeur de métier, de le faire, de partir dans cette espèce de folie madine, quoi. Il était réellement enthousiaste à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Et c'est quelqu'un qui aime faire des livres très particuliers et très originaux.
Oui, c'est un peu le Steidel indien, si vous connaissez l'imprimeur allemand Steidel, l'éditeur.
Il y a d'autres questions.
Il nous reste à vous. Ah, oui.
Non, je voulais juste poser la question, à savoir, vous avez parlé des difficultés que les uns et les autres vous avez éprouvées pour pouvoir photographier. Les sujets, donc j'aimerais savoir par rapport à d'autres pays, notamment l'Afrique et autres, alors j'aimerais savoir quelles étaient exactement ces difficultés. Est-ce que c'était dû au fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait déjà beaucoup des images de l'Inde un peu partout? Est-ce que c'était dû au fait que c'était... Il y a tellement de choses à photographier que vous ne saviez pas par où commencer, comme l'a dit... Cécile, ou bien, je ne sais pas, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est à peu près les mêmes difficultés, ou bien est-ce que c'est dû au fait que vous êtes un peu tétanisé par rapport à toutes les images que vous voyez?
Merci. On va répondre ensemble, mais il y a plusieurs choses. Il y a ce que vous disiez, la difficulté des images qui ont déjà été faites, de ne pas reproduire ce qui a déjà été fait. Moi, je disais tout à l'heure, c'est plus facile de faire des photos en Inde dans la rue, par exemple. C'est-à-dire que les gens ont moins de réticence à être photographiés que dans certains autres pays. Et après, il peut y avoir en Inde des difficultés administratives. C'est-à-dire que dès qu'on touche à des choses un peu officielles où il faut des autorisations, là, on rentre dans quelque chose qui peut être très, très, très compliqué, quoi. Mais Gilles, toi qui connais bien l'Afrique, peux comparer aussi.
Oui, non, c'est vrai que c'est difficile en Inde pour ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'on a une imagerie qui est très très forte, donc c'est difficile de sortir un petit peu des images qu'on a dans la tête. Par contre, le rapport avec les gens et la possibilité de photographier, ne serait-ce que dans la rue, est beaucoup plus facile que notamment en Afrique. Enfin, moi, je connais un petit peu le Mali, le Sénégal, les endroits où je vais. C'est très 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 difficile de travailler là-bas, beaucoup plus qu'en Inde, parce que le rapport à la photo n'est pas du tout le même, quoi. Donc là, pour le coup, c'est plus simple pour ça, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que l'imagerie est plus forte.
Je crois qu'il y avait une autre question sur les futurs projets de Tendance Loup. C'est ça, hein ? C'était quels sont les futurs projets de Tendance Loup ?
Ben, en fait, après le Made in India, il y en a eu d'autres. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise. Il y en a eu deux autres. Il y a eu l'année suivante, il y a eu un Made in France qui a pris encore une autre forme, enfin une troisième forme. Et au printemps dernier, il y a eu un Made in Sète.
La ville de Sète.
La ville de Sète.
Pour la première fois, on a été invité dans une ville, mais toujours sur le même registre, sur le même principe, de poser notre regard simplement sur une ville en France, à Sète notamment, parce qu'il y a un festival de photographie dont c'est la 4e édition l'année prochaine, et qui du coup nous a demandé de venir. Donc la revue est prête, on l'a livrée au moment de Arles, et on la signera d'ailleurs dans trois semaines,
le 15 octobre.
Sur une péniche qui est au bas de la BNF. Voilà.
Et sur les projets futurs, puisqu'on ne se lasse pas de travailler ensemble depuis le Made in India, Alain est rentré comme photographe à Tendance Loup et Bénédicte continue à nous accompagner. Et, il est,
il y a quelques projets en route.
Il y a un projet sur l'Afrique du Sud qui est en projet donc pour l'année qui vient. Mais qui ne sera pas un Made in, qui sera toute autre forme, et notamment en collaboration et avec des échanges avec des photographes sud-africains.
Juste pour revenir sur l'idée sur le projet du Made in Sète, ce qui s'était développé de manière embryonnaire en Inde, c'est-à-dire de faire venir des gens au moment de la fabrication, de la conception et la réalisation du chemin de fer du livre. Là, ça a été réalisé en tant que projet autonome, c'est-à-dire que le festival nous a invités à photographier pendant 5 jours la ville, mais au lieu de produire une exposition au moment de l'ouverture du festival, la contribution qui a été demandée à Tendance, ça a été de fabriquer le livre en public au moment de l'ouverture du festival pendant 5 jours. Et donc, c'est vraiment devenu une espèce de... La fabrication, la conception et la fabrication de la maquette du livre est devenue une espèce de happening public et c'était tout à fait passionnant de le voir sous cette forme-là. Quoi.
C'est-à-dire que concrètement, les gens qui avaient été photographiés pouvaient le lendemain venir sur place à la rédaction et par exemple, Gilles avait photographié des gens qui venaient voir en disant « Ah tiens, tu m'as mis en quart de page, mais moi je me serais bien vu en pleine page. » Enfin, ils commençaient à discuter. Les gens photographiés n'intervenaient pas dans
c'est
la maquette.
C'est les gens qui faisaient la maquette, façon, donc ça devenait un peu... Mais bon, c'était super pour ça, parce que là, pour le coup, il y avait vraiment une vraie participation des gens qui étaient et photographiés et des Sétois qui n'étaient pas photographiés, même qui disaient « Mais pourquoi moi, je ne suis pas photographié ?» Enfin, bon, on a eu tout un échange comme ça qui était quand même assez riche.
Bon, bah, écoutez, cette fois-ci, on vous remercie d'être venus si nombreux et aussi curieux. Et... on se donne rendez-vous le 15 octobre sur la péniche Petit Bain, ça s'appelle. Petit Bain, c'est donc en face de la BNF, à côté du bateau phare, pour ceux qui connaissent. Il y aura une séance de signature du Made in Sète, et puis un concert, et puis une fête toute la nuit, avec notamment certains photographes de Tendance Loup derrière les platines, comme DJ. Voilà. À bientôt.